10h34 minutes et les poussières au Lambert Café. J'accueille avec grand plaisir Éric Giasson. Bonjour.
Bonjour, Jocelyne.
Monsieur Giasson, si j'étais producteur, je pense que je ferais un film avec votre histoire.
Hey, vous n'êtes pas la première qui me dit ça. J'espère que ça va arriver parce que c'est une histoire intéressante. Puis, évidemment que c'est la mienne, mais au-delà de l'histoire intéressante, je pense que ben, le message que je reçois, c'est que vous êtes plusieurs ou on est plusieurs à se retrouver dans mon histoire. Mm-hmm. Parce que je pense que c'est l'histoire d'une personne humaine qui a été mélangée un petit peu dans la vie puis qui s'est fait prendre dans le rôle de la société ou dans le jeu de la société, si on veut.
Exact. Avant de parler de votre livre, justement, parle-moi un peu de votre histoire. Qui il est Éric Giasson?
J'ai travaillé en finance pendant 20 quelques années. J'ai travaillé pour des firmes très prestigieuses à New York, à Toronto. Et j'ai perdu mon... Puis je suis allé vraiment au sommet, là, plus haut que le sommet même en finance dans ce domaine-là. En 2008, j'étais là au sommet. J'ai perdu mon emploi suite à la crise. Et parce que j'avais passé trop de temps dans ma tête à envier, à vouloir jouer justement le jeu social, à être meilleur, puis à avoir plus tout le temps, puis à la quête de quelque chose, ouais. Je m'étais vidé de ce qui me nourrit, je m'étais coupé de mon cœur. Fait que quand j'ai perdu mon emploi en 2008, je suis tombé en dépression, j'ai perdu mes repères. Le yoga m'a aidé à retrouver mon cœur. Mais ça a été une autre prison. Je me suis perdu à un moment donné. J'ai été juste dans mon cœur. Je me suis pris pour un yogi. Je me suis laissé pousser la barbe. Je me suis acheté une robe. Puis j'avais des colliers dans le cou. Puis je suis allé méditer en Inde pendant 3 mois. Et ça, c'est pas une façon de non plus de repousser la réalité économique et sociale. Puis à un moment donné, bien, j'ai compris que le yogi de Wall Street ou la personne humaine, elle existe et elle peut se réaliser justement dans l'équilibre de la tête et du cœur. Puis bon, ben maintenant, j'ai 2 studios de yoga, je suis coach, conférencier et auteur de 2 livres.
Oui, c'est un mot important, l'équilibre, hein?
Oui, tout à fait, parce que c'est là que la vie se situe. C'est
mais
dans
pas
cet
facile
équilibre-là, puis elle est fragile, elle est précaire et elle se renouvelle, si on veut, au quotidien, OK? Tu peux pas dire, moi je me fais souvent poser la question, es-tu en équilibre? Pas du tout. Je ne suis pas, mais j'ai un processus pour essayer de me rééquilibrer au quotidien. Parce que le moment où tu dis, oui, moi, je suis en équilibre, ben, tu dois cristalliser avec ton esprit rationnel, avec ton intellect. Puis à partir du moment où ça ne correspond pas à ce modèle-là, tu es en déséquilibre. Ça fait que tu, au lieu de vivre l'équilibre, tu penses à l'équilibre.
Vous nous proposez, entre autres, parce que ce n'est pas votre premier livre, « Nourrir sa tête sans affamer son cœur ». Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps professionnel au travail, on y donne nos meilleures années, nos meilleures heures et ainsi de suite, dans notre tête, à être justement à la quête là, d'une certaine réussite sociale. Puis quand on est dans notre tête, qui est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître, on se coupe de ce qui nous nourrit. Et dans ce livre-là, ben, je pose 6 questions pour nous outiller, pour nous aider à se responsabiliser, pour nous aider à avoir du succès professionnel, mais à se réaliser aussi en tant que personne humaine. Puis la première question est à l'entour de nos croyances. On a un paquet d'histoires dans notre tête, là, puis certaines de ces croyances-là vont nous limiter. À un certain moment donné, on a eu une neuro-association, il est arrivé un moment clé, on a peut-être eu un échec, une défaite ou peu importe, puis là, on a répété l'histoire sans cesse dans notre tête qu'on n'est pas bon dans telle aventure ou dans tel rôle ou peu importe. Puis comme on cherche à se protéger, okay, comme on cherche à éviter la douleur et à répéter ce qu'on pense qui est le plaisir, bien, on va éviter ces situations-là. À comprendre les croyances génériques qu'on a dans la tête, c'est tout le temps pour les autres. À comprendre les adverbes qu'on ajoute aussi. Les autres me jugent, tous les autres pensent, et ainsi de suite. Fait que comprendre nos croyances. Ensuite de ça, comprendre nos peurs. De quoi on a peur, au juste? Puis ce qui est fascinant, c'est que la peur a probablement fait survivre là, l'espèce humaine, ce que la neuroscience va appeler le mode par défaut. Quand on est dans notre mode par défaut, on se retrouve un peu comme une personne préhistorique. Là. Puis pour ceux qui ont vu le film Les Croods, je trouve que ça c'est un cartoon pour enfants, je trouve que ça représente bien ce qui se passe. Et quand tu es dans ton mode par défaut, tu es préoccupé par la survie Et tout ce qui t'entoure est une attaque potentielle à ton existence. Bon, évidemment qu'on a évolué depuis la période préhistorique, mais on va s'identifier à notre rôle, à notre personnage public, à qui on pense qu'on est, puis on est préoccupé par la survie de cette personne-là, de cette identité-là, puis tout ce qui nous entoure est une menace. Notre patron ne nous a pas regardé, il ne nous a pas dit la bonne chose, et ainsi de suite. Puis tout est interprété par rapport à nous. Puis encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, on va chercher à éviter les peurs. Ça fait qu'on va se bloquer, encore une fois, de la réalité. On ne va pas permettre à la réalité vraiment de traverser nos yeux, mais on va projeter nos peurs sur la réalité.
Le temps file, je vous écouterai pendant une heure. Écoutez, vous avez posé les questions à 6 personnalités au parcours impressionnant. Parlez-moi un petit peu rapidement.
Bien, j'ai eu la chance dans ce livre-là d'interviewer, entre autres, Pierre-Yves Maxwell, Isabelle Hudon, Nicolas Duvernois, Jacques Francis, Jean Labadie, Marilyn Gagné. Mm-hmm. Et je leur ai posé ces questions-là. Quelles sont vos croyances? De quoi avez-vous peur? Qui êtes-vous vraiment? Quelle est votre mission? Avez-vous trouvé l'équilibre entre la tête et le cœur? Et arrivez-vous à garder la foi en votre mission? Et chacun répond à une de ces questions-là, puis c'est très intéressant.
Oui, je vous avoue que j'ai très, 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 très hâte de recevoir votre livre qui doit arriver très, très bientôt, là. Alors, c'est pas votre premier, c'est votre quatrième. Celui-là, c'était le deuxième, je pense, et vous en avez écrit 4?
Non.
Non? Vous en avez écrit 2?
C'est mon deuxième livre.
C'est votre deuxième.
Peut-être de mes enfants. J'ai 6 enfants, mais j'ai juste 2 livres.
Quand même, vous avez une vie très bien remplie et vous semblez très heureux maintenant, alors que il fut une période où c'était vraiment plus difficile. Donc, je pense que c'est un espoir. On peut s'accrocher à votre histoire pour nous aider à trouver des solutions pour rendre notre vie plus belle aussi.
Ben tout à fait. Puis comme je le disais d'entrée de jeu, là, au-delà du fait que j'ai travaillé en finance, que je me promenais en voiture de luxe.
Ouais.
J'ai été ruiné, puis qu'après ça, je suis devenu professeur de yoga. Au-delà de ça, c'est l'histoire d'une personne humaine.
Ouais.
Et j'ai tiré des leçons de ça que je partage dans mon premier livre, Le courage de réussir. Et ici, dans mon deuxième livre, Nourrir sa tête sans affamer son cœur, 6 questions qui nous aident à s'outiller, à se responsabiliser pour réussir sa carrière, mais se réaliser en tant que personne humaine aussi.
Nourrir sa tête sans affamer son cœur, à lire absolument Éric Giasson, ça a été un plaisir. Un gros merci.
Merci à vous, Jocelyne.
Bye bye.